La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, Otto Weininger et la question du génie. Le 3 octobre 1903, un tout jeune philosophe, Otto Weininger, se suicidait à Vienne d'une balle en pleine tête, dans une chambre qu'il avait louée dans l'immeuble où Beethoven était mort trois quarts de siècle plus tôt. Il n'avait que 23 ans. Il venait tout juste de faire paraître un ouvrage étrange, inclassable, provocateur et même scandaleux, intitulé « Geschlecht und Charakter », autrement dit « Sexe et caractère », ce qui est tout de même un sacré programme. Il y parlait de presque tout, du génie, de la génialité, si l'on peut dire, de la musique, du sentiment de décadence, de la haine de soi, de la sexualité de l'homme et surtout de celle de la femme. Ce livre marqua les plus grands esprits et ne laissa presque personne indifférent. Il connut d'ailleurs de très nombreuses rééditions, 36 jusqu'en 1925, et également de très nombreuses traductions. Il faut dire qu'à côté des outrances, des contradictions, des aphorismes bizarres et des théories bancales qui y foisonnent, il est parsemé de constats sur la société moderne qui continue de nous percuter. Sigmund Freud considérait qu'Otto Weininger était un pur génie. Ludwig Wittgenstein le tenait en grande estime, tout comme Karl Kraus, Stefan Zweig, Robert Musil, James Joyce, Franz Kafka, Georges Bataille ou encore Émile Cioran, excusé du peu. Mais d'autres considérèrent que ce chaman de l'intelligence n'avait été qu'un enragé victime de ses problèmes, un aliéné, un individu possédé par des forces qui le débordaient. D'où la question « qu'est-ce au juste que le génie ?» Depuis quelques décennies, il semble qu'il ne convienne plus de poser cette question car le mot « génie » gêne. Jacques Derrida, explique-t-on, aurait en quelque sorte clos le sujet en affirmant « à accorder la moindre légitimité au mot « génie », on signerait une démission de tous les savoirs. On y avouerait une adoration muette devant l'ineffable de ce qui, dans la valeur courante du mot « génie », associe souvent le don à la naissance, le secret au sacrifice. Malgré cette mise en garde pas très claire, nous allons reposer la question à la lumière du cas Otto Weininger. Qu'est-ce au juste qu'un génie ? Et quel lien y a-t-il ou n'y a-t-il pas entre le génie et la folie ? Entre le génie et le suicide. Ceux qui pensent ce que les autres ne pensent pas, ou qui voient au-delà des réalités empiriques, auraient-ils plus de mal que nous autres à vivre en société ? Seraient-ils condamnés à éprouver l'angoisse d'un exilé chez les araignées, la pulsion irrépressible de plier bagages, un désir fou d'errance définitive ? Pour discuter de tout cela, j'ai invité Jacques-Antoine Malarevitch. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et vous publiez un livre intitulé « L'énigme Otto Weininger ». Vous êtes psychiatre.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce personnage très connu en Allemagne, en Autriche et assez peu connu, je crois, en France?
Quasiment peu connu en France, tout à fait. Je suis parti de ce qu'a dit Freud de lui, c'est-à-dire, il en a parlé à plusieurs reprises, il le considérait comme un génie. Et quand on sait, quand on lit « Sexe et caractère », qui n'a été traduit en français qu'en 1975, donc bien tardivement, ce qui est frappant, c'est l'antisémitisme. Weininger était juif. Et l'antiféminisme.
Et donc, il était juif et antisémite.
Oui, bien sûr. Comme certains à cette époque.
Oui, bien sûr.
Donc, quand on met ces deux faits l'un à côté de l'autre... Lui, un génie considéré donc parfois comme un génie alors qu'il écrit un livre qui est un véritable brûlot et en même temps un succès de librairie absolument remarquable, ah ben, il y a de quoi se poser des questions qui effectivement en reviennent à l'anachronisme. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'en 1903 et dans les années qui ont suivi, il a été considéré par beaucoup, pas par tous, mais par beaucoup comme un génie. Donc ça nous ramène un peu en arrière à une des définitions possibles du génie.
Est-ce qu'il était connu comme tel, comme génie durant son vivant, si j'ose dire?
Non.
Il est mort à 23 ans, mais vous dites quelque part dans votre livre que derrière son corbillard marchaient Stefan Zweig et Ludwig Wittgenstein qui n'avait que 14 ans.
Oui, on n'en est pas très sûr. C'est une image quand même qui est assez agréable à imaginer, mais effectivement, Wittgenstein aurait eu 14 ans et il aurait suivi le... il aurait été présent dans le cortège funèbre de Weininger en 1903. Mais ça fait partie justement du caractère romantique du personnage. Je crois que c'est la première raison pour laquelle il a pu être considéré comme un génie par certains, c'est-à-dire ce romantisme, c'est quoi? C'est le suicide, c'est une espèce de James Dean, hein, c'est le James Dean de la bisexualité ou de la philosophie. Le génie était considéré comme quelqu'un de précoce, quand même. À 23 ans, il sort un bouquin qui est...
Et il a tout lu.
Il a tout lu. Il a essayé de tout dire à propos de la bisexualité, notamment de la sexualité féminine.
Qu'est-ce que c'est que la bisexualité dans le langage de l'époque?
D'abord, beaucoup de gens s'y intéressaient. À la bisexualité. Ça, ce sont les suites quand même de Darwin qui a amené la question de la biologie dans l'évolution avec la fameuse analogie entre ontogénèse et phylogénèse. Donc, on s'y intéresse beaucoup. Et surtout, un ami de Freud qui s'appelait Fliess, hein, qui introduit, d'après lui, la question de la bisexualité dans la psychologie, laquelle psychologie est en train de naître également. Fliess en parle à Freud, Freud en parle à un de ses patients, qui était un ami de Weininger. Bon. Donc du coup, l'idée se transmet de cette façon, et Weininger prend ça au vol, en quelque sorte, et développe d'abord sur un plan purement physiologique et biologique, il essaye de faire le résumé des connaissances de l'époque. Donc, si on lit, si on suit Weininger, ce qui est d'ailleurs intéressant parce que ça peut rapprocher des théories actuelles sur le genre, ben on est un mélange effectivement, ça veut dire qu'on n'a pas un choix hétéro ou homosexuel, on est un mélange d'éléments masculins et d'éléments féminins, lequel mélange se modifie constamment dans le temps, au cours des âges, ce qui peut donner des manifestations même au niveau du corps. Donc, il a une ambition absolument prométhéenne. Il n'est pas le seul. Fliess, c'est la même chose. Freud, c'est la même chose. Et d'une certaine façon, tout le monde échoue. C'est ce qui, je crois, est intéressant.
Mais alors, qui était-il? Parce que il meurt à 23 ans, oui. Il est connu par son suicide, si j'ose dire, et
oui,
aussi par ce livre.
Absolument, la chose
mais
la
avant d'écrire ce livre, il fait quoi? D'où vient-il? Il est né à Vienne?
Il est né à Vienne, en 1880, donc. Famille normale pour l'époque.
Il est né en même temps qu'Einstein. Finalement.
Voilà, exactement. 7 frères et sœurs, il est le second dans la fratrie. Il fait ses études de philosophie, il voyage beaucoup, il vit à Vienne, qui est quand même une époque assez particulière.
Il vient à Paris?
Il vient à Paris en 1900, à un congrès de psychologie. Il a 20 ans, hein, donc. Et là, il discute avec des gens beaucoup plus renommés que lui, et il défend ce qui, je crois, est aussi l'intérêt qu'il a eu à l'époque. Il défend une vision philosophique de la psychologie. Et il s'oppose à une vision expérimentale de la psychologie.
Qui est pourtant très à la mode à cette époque-là.
Absolument, exactement. Donc, en fait, Weininger est exactement au point de rencontre entre une ancienneté, disons, romantique du 19e siècle et une modernité qui est en train de s'imposer. Tout comme la ville, d'ailleurs, tout comme la culture viennoise. Et il a représenté pour ses contemporains la pointe la plus acérée, la plus provocante, de la réaction contre la modernité, contre ce qui était considéré par beaucoup comme une décadence.
Le progrès est une décadence.
Voilà.
Ça, c'est le sentiment romantique.
Exactement. Laquelle des décadences était due pour beaucoup de ses contemporains aux femmes et aux juifs. D'où, évidemment, dans toute bonne logique, son antisémitisme et son antiféminisme. Donc, il est exactement au passage entre ces deux périodes, entre cette modernité et cette ancienneté. C'est un homme du 19e siècle, mais qui parle de la modernité en la remettant en question, comme si, effectivement, il était... Le témoin le plus représentatif, mais en même temps, il intègre la biologie, il intègre la physiologie.
Et il n'est pas le seul à l'époque à penser la modernité comme une menace. L'empereur absolument. François-Joseph, dites-vous, oui. À cette époque-là, refuse de se servir du téléphone, il refuse de monter dans une automobile, refuse de lire des lettres tapées à la machine.
Oui.
Et donc, c'est cette idée que l'idée de progrès... idée qui se retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans certains discours,
absolument.
Nous arracherait à notre identité fondamentale.
Exactement. Et c'est effectivement ce terme identité qui est important parce que toute période de crise pose la question de l'identité avec dans ses multiples dimensions, y compris a priori notre époque actuelle. Donc la bisexualité est une façon d'aborder la question de l'identité.
Alors tout ça se passe à Vienne, dont vous dites que c'est le pandémonium d'une société qui va pas très bien finalement, puisque le pandémonium, c'est la capitale imaginaire des enfers.
Voilà.
Et donc qu'est-ce qui se passe à Vienne à cette époque? On connaît les récits de Zweig qui a bien connu cette époque et cette ville. Alors, comment est-ce que vous, Jacques-Antoine Malarevitch, vous parleriez de cette époque?
D'abord, Stefan Zweig a bien connu Weininger. On a de lui les descriptions les plus fidèles a priori. Alors, Vienne, disons celle de l'Empire austro-hongrois, qui est d'abord un empire bizarre, c'est bicéphale, hein, c'est l'Autriche plus la Hongrie. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, un empereur qui refuse cette modernité, en tout cas dans son quotidien, mais en même temps voit la ville de Vienne se transformer, avec des bâtiments absolument remarquables autour du Ring, etc. C'est une ville cosmopolite. On y parle beaucoup de langues, la langue devient une chose importante. Et surtout, on parle beaucoup du sexe. Le sexe est omniprésent. Il suffit de voir les œuvres de Kokoschka, par exemple, où il y a une érotisation absolument remarquable du corps féminin, notamment. Et en même temps, évidemment, il y a l'émergence de la psychologie. Et on s'intéresse, encore une fois, à la suite de Darwin. On s'intéresse à la sexualité et surtout à la sexualité de l'enfant et de la femme. Donc c'est un domaine nouveau. Otto Weininger a eu comme professeur Kraft Ebing, qui est le grand théoricien de la sexualité à la fin du 19e siècle. Donc le sexe est une chose importante. Freud n'est pas le seul à en parler. Il est même par certains considéré un peu comme un rétrograde. La nouveauté, c'est qu'on en parle sans utiliser de locutions et d'expressions latines. Ça, c'est tout à fait nouveau et c'est tout à fait intéressant pour les gens de l'époque. C'est-à-dire on passe dans la langue commune.
Un peu comme Galilée qui écrit en langue vulgaire plutôt qu'en latin pour que tout le monde comprenne ce qu'il a à dire.
Absolument.
À propos de l'obligation d'avoir du sexe à Vienne à cette époque, je cite Weininger,
oui.
Cela va si loin que c'est à peine si l'on a encore le courage de s'avouer chaste et qu'on préfère d'une manière presque générale avoir une réputation de débauché.
Voilà. Alors le paradoxe de Weininger, c'est qu'il propose de ne plus avoir d'enfants. C'est-à-dire il prend absolument le contre-pied de cette débauche ou de cette période de décadence en proclamant l'importance de l'abstinence totale au niveau sexuel. Donc, je veux dire, on est constamment dans ce paradoxe, dans les contradictions où il prend le contrepoint qui, encore une fois, pour certains, de la modernité, donc qui pour certains était parfaitement fascinante.
Alors, Robert Musil, pour caractériser le régime politique de cette époque, invente le terme de cacani. Alors, comment est-ce que ça se dit en allemand, ça, cacani?
Pareil. Ça a aussi une connotation scatologique.
Et donc, c'est à partir des termes impérial et royal qu'on a forgé
les deux
initiales, KK.
Oui.
Voilà. Kakani. Donc, Vienne est un régime à la fois rétrograde et décadent.
Voilà, exactement. Mais en même temps, la modernité existe. Par exemple, dans l'art. C'est évident, dans l'art.
C'est aussi une période où on pratique beaucoup l'art de l'aphorisme.
Oui, Karl Kraus, par exemple.
Karl Kraus dit « Un aphorisme n'a pas besoin d'être vrai, mais il doit survoler la vérité, il doit la dépasser d'un trait. » Il ajoute « Écrire un feuilleton consiste à faire des boucles sur une calvitie. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi?
C'est le propre de l'aphorisme, c'est-à-dire effectivement d'être dans le paradoxe, de contenir en une seule proposition une multitude de sens. C'est ce que reprendra d'ailleurs Wittgenstein ultérieurement, parce que le Tractatus, c'est quand même pas évident à lire, c'est bourré d'aphorismes.
C'est une suite d'aphorismes, en fait. Hein.
Ouais.
Et qu'est-ce qui fait que c'est à la mode?
C'est à la mode parce que la langue est importante. C'est-à-dire, c'est de nouveau le paradoxe. C'est-à-dire, comme il y a beaucoup de langues, on parle beaucoup de langues, on voyage beaucoup, à l'époque, Le train est une chose absolument extraordinaire. Donc, comme on peut parler beaucoup de langues, la langue d'origine est une chose importante. Et donc, il y a des défenseurs de la langue, notamment Karl Kraus, qui voit dans cette, encore une fois, dans cette modernité qui risque de la remettre en question, qui voit même, en tout cas c'est ce que dit Karl Kraus, le début du commencement d'un risque de dictature, avec la disparition de la langue. Ce sont des choses qui peuvent dire quelque chose maintenant.
Alors c'est le moment de la première pause musicale, Jacques-Antoine Malarevitch, vous avez choisi une chanson de Leonard Cohen qui parle de la valse, de Vienne.
Oui, il a failli y avoir le prix Nobel.
Oui, ça sera pour... Ah non, ce ne sera pas pour une prochaine fois, il est mort, pardon.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine, in the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. Take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it?
Jacques-Antoine Malarivich, pourquoi ce choix de cette chanson de Leonard Cohen?
Parce que la musique était importante à Vienne à cette époque, et effectivement pour le commun, la musique viennoise c'est la valse. Or, Weininger détestait la valse, comme beaucoup de ses contemporains, il préférait Wagner, et pour lui la valse était une musique profondément féminine, parce que pour lui les femmes revenaient toujours au même point, c'est-à-dire elles tournaient en rond comme les manèges. Donc c'est effectivement une espèce de clin d'œil à Weininger qui n'aurait absolument
donc,
pas aimé
la valse par antiféminisme.
Exactement, exactement.
Bon, mais Vienne à cette époque-là, c'est aussi l'art sous toutes ses formes, pas simplement la musique.
C'était quand même beaucoup la musique, hein. Encore une fois, il est mort là où Beethoven est mort. C'est quand même quelque chose d'admirable pour lui.
Il avait loué une chambre spécialement pour mourir au même endroit que Beethoven.
Oui. Alors, dans Rue des Espagnols Noirs, qui est exactement dans la prolongation de la Bergasse où vivait Freud. C'est-à-dire à 200 ou 300 mètres.
Est-ce que Freud et Weininger se sont rencontrés?
Oui, deux fois. Donc, en 1901, Weininger passe sa thèse de doctorat de philosophie. Il veut l'éditer, il va voir Freud. Freud est bon, très intéressé. Je pense que ce qui intéressait surtout Freud, c'est est-ce qu'il se sert de mes idées? Et surtout apparaît cette histoire avec Fliss où il y a un conflit. Ça a donné l'occasion de multiples rebondissements. Et il se revoit. Et ce qui est intéressant, c'est que longtemps, quasiment jusqu'à sa mort, jusqu'en 1939, certains des visiteurs de Freud viennent le voir et lui disent « Mais qui était Weininger ?» Je crois qu'il en a... qu'il a vécu ça avec une certaine jalousie. C'est-à-dire qu'effectivement, cet astre, ce météorite qui passe dans la nuit viennoise et qui est mort, peut-être heureusement pour Freud, assez rapidement, parce que longtemps, Weininger était considéré comme un précurseur de Freud. Et le succès de librairie de son unique livre, donc édité de son vivant, a été beaucoup, beaucoup plus important que les livres de Freud. Donc Freud a dit à plusieurs reprises que c'était un génie, mais en même temps, il a, et je pense qu'on va, ça permettra d'aborder une autre dimension, il a dit « c'est un génie malade ». Ce qui est quand même une chose intéressante, c'est-à-dire que d'une certaine façon... Freud renoue avec Aristote, dont on sait qu'il a dit il y a bien longtemps « qu'est-ce qui fait que tous les hommes d'exception sont mélancoliques ?» Donc la notion, même pour Freud, la notion de génie est étroitement liée, en tout cas à propos de Weininger, à la maladie mentale.
Mais quel est le sens du mot génie à cette époque? Est-ce que c'est le même qu'aujourd'hui ou est-ce que c'est un sens romantique?
Alors, il y a une dimension romantique, il y a une dimension de folie, ou plus exactement de dégénérescence. Parce que, en cette fin du 19e, il y a quelqu'un qui est très important, c'est Lombroso. Lombroso, en 1876, écrit L'homme criminel, ensuite La femme criminelle et la prostituée. On peut apprécier le rapprochement. Et ensuite L'homme de génie. Et pour Lombroso, qui était très discuté à son époque, mais qui a quand même une certaine influence, le génie, le fou et le criminel étaient des dégénérés. Donc, assez rapidement après sa mort, et même plusieurs années après, Weininger a été considéré comme un fou, c'est-à-dire il a reçu quasiment tous les diagnostics qui étaient possibles à l'époque.
On a projeté sur lui toute la taxonomie de la folie.
Exactement, toute, quasiment tout. Sauf éventuellement l'alcoolisme ou l'opiumnie ou des choses de dépendance comme ça. Mais il a reçu tous les diagnostics. Donc il a été considéré comme un fou. Et les circonstances de sa mort, c'est-à-dire le suicide, bien que le suicide ou les suicides étaient fréquents à cette époque dans cette Vienne, trois des frères de Wittgenstein se sont suicidés. C'était quand même, comment dire, une façon par le haut de s'en sortir pour certains qui pouvaient mal supporter un certain nombre de choses, bien évidemment. Les circonstances de sa mort et surtout son comportement, parce que les quelques témoignages qu'on a de lui donnent le sentiment de quelqu'un d'assez étrange, qui se conduisait bizarrement, d'ailleurs exactement comme Wittgenstein. C'est-à-dire les descriptions de Wittgenstein et celles de Weininger sont très rapprochantes. Donc, la seconde composante, c'est cette accointance avec la folie que même Freud valide.
Il y a un autre très grand viennois qui s'est suicidé, c'est le physicien Ludwig Boltzmann qui se suicide en 1906 en Italie.
Oui.
Et qui a théorisé l'idée que l'énergie se dégrade, c'est-à-dire qu'il y a une croissance de l'entropie, donc toute structure, tout système évolue vers un désordre de plus en plus grand. Est-ce que cette idée de physicien a eu une influence sur la façon de penser l'évolution de la société elle-même?
Oui, c'était la dégénérescence. Enfin, ça, c'était plutôt un terme psychologique, mais quand on parle de décadence, on parle de dégénérescence. Et encore une fois, dans le champ de la psychologie naissante, cette notion de dégénérescence est très, très importante. C'est-à-dire que les choses se délitent, que les choses partent en morceaux, était une idée qui était très prégnante à l'époque.
Et est-ce que vous voyez un parallèle entre cette façon de penser l'évolution de la société à l'époque et notre discours actuel sur un éventuel déclin de l'Occident ou de l'Europe ou de la France?
Je pense que se pose également de nos jours la question de l'identité, même si c'est pas toujours facile à utiliser, à manipuler et à poser comme question. Mais nous sommes, je crois, dans une période de crise. Ça paraît assez évident, en tout cas beaucoup le disent. Et entre autres, se pose la question de l'identité. Au niveau sexuel, théorie du genre, au niveau de la culture et de la langue, également au niveau économique, ce qui est une donnée un peu nouvelle, et également dans l'art, d'une certaine façon.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors, comme le sujet que nous devons traiter intégralement, exhaustivement, Jacques-Antoine Malarévitch, c'est la question du génie,
oui.
Quand est-ce qu'on commence à parler de génie? Qui est le premier à utiliser ce mot et pour désigner quoi?
La première occurrence, c'est Rabelais, 1530.
Et ça veut dire quoi pour lui?
Alors, ce sont les prémices du génie de la langue française.
Ah oui.
D'accord. Il y a deux origines, en fait, si on remonte évidemment au grec et au latin. Il y a le daimon grec, dont le plus connu est le démon de Socrate. Et il y a le genius romain qui a une connotation plus d'engendrement. D'ailleurs, étymologiquement, c'est la même chose. Progressivement, on abandonne l'idée de daimon qui devient le démon, c'est-à-dire le mauvais génie, hein, mais qui en même temps s'apparente à la folie. Il y a un auteur qui est assez méconnu, qui s'appelle Lélu, Louis-Francisque Lélu, qui en 1836 écrit un livre qui s'appelle « Du démon de Socrate », où il est l'un des premiers à affirmer que Socrate était relativement déséquilibré. On peut imaginer, en cette période où la philosophie était une chose, où Socrate était important, etc. Donc, il ouvre la porte, en fait, de nouveau, à cette accointance entre la folie et le génie. Donc, la première occurrence, c'est rappelé. Ce qui est très intéressant, c'est la période de la Révolution. Parce que pendant la Révolution, gros problème. Qu'est-ce qu'on fait des hommes remarquables, on utilisait peu le mot génie, face au principe d'égalité? Comment faire? Comment s'en sortir de ça? Alors, finalement, pour résumer, on ouvre le Panthéon et on inaugure le cimetière du Père Lachaise. C'est-à-dire que les hommes d'exception
deviennent des modèles et doivent servir l'éducation, puisque le génie n'est plus divin ou d'inspiration divine, il faut qu'il serve à l'éducation du peuple. C'est Dolbach, c'est Rousseau qui introduit cette idée. Donc en fait, d'une certaine façon, les génies ou les hommes d'exception qu'on rassemble, aussi bien en Panthéon qu'au Père Lachaise, deviennent en fait les reliques des saints qu'on avait précédemment.
L'équivalent.
L'équivalent des reliques des saints.
Donc le génie ne vient pas de Dieu, il vient d'un rehaussement de soi-même.
Absolument, absolument.
Weininger, je crois, cite à plusieurs reprises Schopenhauer, qu'il avait évidemment lu et travaillé. Et Schopenhauer fait une distinction que d'ailleurs reprend Weininger entre le talent et le génie. On peut avoir beaucoup de talent sans être génial.
Oui.
Et le génie peut se manifester sans que ce soit l'expression de talent explicite. Schopenhauer décrit ceci, « Avoir du talent, c'est atteindre un but que les autres ne peuvent pas atteindre. Avoir du génie, c'est atteindre un but que les autres ne peuvent même pas voir. »
La différence, c'est l'universel. Et encore une fois, dans son antiféminisme, Weininger explique que les hommes, qui sont plus conscients que les femmes, peuvent atteindre l'universel, ce qui n'est pas le cas des femmes, qui sont plus dans l'inconscient. Et qui, pour ajouter encore dans l'antiféminisme, ne pense qu'au sexe. C'est ce qu'explique
Weininger. Elle n'y pense en permanence, alors que l'homme n'y pense que par intermittence.
Oui, et puis surtout, il élève la société, il crée la culture, il a ce que Freud appellera ultérieurement un surmoi.
Et donc, il y a du Weininger dans Freud ?
D'abord, ils ont été quand même proches l'un de l'autre, malgré ou grâce à la disparition précoce de Weininger, parce qu'ils se sont attaqués au même sujet, encore une fois, à la bisexualité et à la sexualité féminine. Weininger, l'a fait de façon tellement caricaturale que pour nous, il reste parfaitement inaudible, même si à l'époque de son temps, c'était quelqu'un qui était intéressant. Mais Freud a également, de son propre aveu, échoué par rapport à la sexualité féminine. Il dit... C'est un dark continent, c'est-à-dire que ça reste un continent noir. Donc, ce qui les rapproche, en quelque sorte, c'est leur échec. Ce qui me fait dire, encore une fois, que d'une certaine façon, le Weininger est une espèce de Freud sans limite. Il se laisse aller. Il se laisse aller bien plus que Freud, qui a bien plus été soucieux de sa renommée, de sa scientificité, etc. Alors que Freud
se méfie de la philosophie.
Ah ben oui, mais en même temps, il s'y intéresse beaucoup, mais enfin, il le dit pas. Enfin,
je veux dire, comment est-ce qu'un jeune homme, qui donc se suicide à seulement 23 ans,
ouais,
peut être aussi péremptoire quand il parle de la sexualité féminine? Qu'a-t-il connu comme expérience qui lui permette de prétendre clore la question?
Alors ça fait partie de l'énigme Weininger, parce qu'on sait
le
peu de choses.
Le mystère même.
Oui, voilà, c'est ça. On sait peu de choses de sa vie affective. On lui connaît une ou deux relations féminines, jusqu'où c'est allé, on ne sait pas. Mais évidemment, dans tous ceux qui l'ont critiqué et qui l'ont considéré comme un dégénéré, on l'a traité d'homosexuel, on l'a traité de pervers sexuel. Certains ont même avancé l'hypothèse que ses organes génitaux étaient atrophiés. Donc, ce que je veux dire, c'est que personne ne peut répondre clairement à cette question, sauf à considérer qu'il n'avait aucune expérience et que son manque d'expérience... précisément expliquer ses outrances.
Il n'avait pas l'air d'être en forme. Hein. je cite Stefan Zweig qui en fait oui. Un portrait. Il avait toujours l'air d'avoir fait un voyage en train qui aurait duré 30 heures. Il était sale, fatigué, les vêtements froissés. Il se déplaçait de travers, les rembarrassait, comme s'il se plaquait contre un mur invisible et sa bouche, sous une petite moustache fine, semblait s'affaisser sous l'effet des tourments.
Ce qui est remarquable, je trouve, c'est la comparaison que prend Zweig avec le voyage en train. Parce que symboliquement, le voyage en train ou les voyages en train à cette époque étaient très importants au niveau symbolique. Le train ou le voyage en train était associé à la sexualité, on y revient.
Alors que pour Einstein, c'est le problème de la sacralisation de l'horloge.
Exactement. Donc, était associé au sexe, alors a priori pas pour Einstein, et à la criminalité. D'accord.
Pourquoi ?
Les compartiments, enfin je veux dire, c'est aussi toute la littérature, c'est Agatha Christie, c'est par exemple la liaison. La liaison dans la bête humaine de Zola. Pour Freud, les voyages en train étaient une chose incroyablement importante. Donc, je trouve intéressant que Stefan Zweig prenne la comparaison du voyage en train qui a duré 30 heures, parce qu'on voyageait beaucoup quand même à cette époque. On était polyglotte, on connaissait bien l'Europe, et d'une certaine façon, on était presque plus européens, en tout cas pour certains, que maintenant. Ibsen, Strindberg, Zola étaient connus dans toute l'Europe, ont joué leurs pièces. Donc le train, symboliquement, est quelque chose qui a fédéré beaucoup de fantasmes.
Alors vous parlez d'Ibsen, mais justement, Weininger, avant de se suicider, vous le dites dans le livre, citait souvent Ibsen dans ses conversations. Alors c'est un personnage dont je vois mal ce qu'il pouvait représenter à l'époque, mais qui évoque un autre génie qui a disparu, qui s'appelle Ettore Majorana, qui est un physicien génial qui a disparu volontairement à l'âge de 31 ans, en 1938. Et dans le dernier télégramme qu'il envoie au directeur de l'Institut de Naples, où il donnait des cours, voilà, il écrit un télégramme dont la dernière phrase est celle-ci. « Ne me prends pas pour une jeune fille d'Ibsen, car mon cas est différent. Je suis à ta disposition pour des détails ultérieurs. » Et on ne le verra plus jamais, il disparaît. Et qu'est-ce que ça veut dire « je ne suis pas une jeune fille d'Ibsen » ? Que représentait le théâtre d'Ibsen dans l'imaginaire de l'époque ?
Alors, c'est la question de la sexualité féminine, la question du couple et de la bisexualité. Et en lien avec un idéal, c'est-à-dire l'idéal du couple, ces pièces de théâtre mettent en scène cet idéal et Weininger, en tout cas, s'intéresse à Ibsen pour le tirer vers lui dans une idéalisation du couple et de la femme. C'est-à-dire, il essaye de traduire Ibsen et le théâtre d'Ibsen en fonction de ses propres croyances par rapport au féminisme, ou en l'occurrence à l'antiféminisme.
Alors, qu'est-ce qu'un génie, finalement, Jacques-Antoine Marie-Bien ? Est-ce que c'est un... Je ne sais plus qui, dans le livre, parle de Weininger en posant la question, est-ce qu'il a un esprit anormal qui aurait des pensées normales, ou bien est-ce qu'il a un esprit normal qui aurait conçu des idées anormales ? Quel est le lien entre l'idée de génie et l'idée d'anormalité, finalement ?
Alors ça, c'est récurrent dans l'histoire. Hein. Encore une fois, le lien entre la folie et la génialité est quelque chose qui revient constamment dans l'histoire des mentalités. Moi, j'aime bien une définition de Rousseau qui est... Il s'adresse à un jeune auteur et il dit... Si tu veux savoir ce que c'est que la génialité, ou ce que c'est qu'être un génie plutôt, si tu es génial, tu le sais. Si tu ne l'es pas, tu ne le sauras jamais.
Alors, il n'y a pas des contre-exemples? Vous connaissez très bien l'œuvre de Céline, je crois, oui. Jacques-Antoine Malarevitch. Et Céline dit ceci, il peut y avoir beaucoup de folie à s'occuper d'autre chose que ce qu'on voit. C'est l'abstraction, c'est la passion du raisonnement quand elle est vécue de façon exclusive, qui peut avoir pour revers le soliloque absolu, l'enfermement dans son propre génie, donc dans une sorte de folie.
Le génie est solitaire. C'est là aussi une vision très romantique de la génialité, voire il s'enferme dans la solitude. Il s'enferme dans la solitude et aussi dans quelque chose qui était très important pour Weininger, c'est-à-dire le fait de s'observer soi-même. C'est pour ça qu'il était contre la psychologie expérimentale. C'est quelqu'un qui était dans l'introspection. Et donc, ce qui renforce encore plus la solitude. Donc, effectivement, on sait que la génialité, notamment chez certains scientifiques, peut aboutir à la solitude absolue.
Mais on connaît quand même des exemples de scientifiques géniaux qui n'étaient pas des solitaires. Est-ce que ça veut dire qu'un scientifique ne peut pas être génial au sens de Weininger ? Il le dit, je crois, quelque part, que
oui.
homme de science a une forme de génie qui est liée à une sorte de compétence.
De talent.
De talent, de spécialisation de la façon de penser, mais que c'est pas le génie au sens universel qui lui est.
Exactement. Parce que au 19e siècle, les génies étaient des écrivains, des poètes ou des philosophes. Donc ils atteignaient, au sens où l'entendait Weininger, ils atteignaient l'universalité. Bien évidemment, il ne connaissait pas encore tous les progrès, il ne connaissait pas Einstein, etc., etc.
Donc, c'est-à-dire, Weininger, Einstein ne devrait pas être classé comme génie.
Exactement. Mais bon, c'est pas très grave, l'un et l'autre sont morts, je crois.
Quelqu'un a écrit à propos de Weininger, Jacques-Antoine Malarevitch, on préférera toujours un grand esprit morbide à un imbécile bien portant. Est-ce que ça veut dire que la pensée, elle doit, pour avancer, être travaillée par des génies qui font des... qui lui permettent de faire des bonds, des sortes de sauts, qui ouvrent des voies, ou est-ce que c'est un travail collectif va progresser si beaucoup de gens s'y mettent sans être spécialement des génies ?
Les prix Nobel,
la part de la singularité dans l'affaire ?
Les prix Nobel, de plus en plus en tout cas dans les matières scientifiques, sont décernés à des équipes. Donc je pense que le travail scientifique est de moins en moins solitaire. L'autre chose, c'est qu'on parle de moins en moins de génie, comme vous le disiez tout à l'heure, le génie gène.
ce qui, à mon sens, remplace le génie en tant qu'être remarquable, c'est sa banalisation, voire sa démocratisation. C'est-à-dire, disons, une certaine vogue pour les Asperger, pour les surdoués, etc., etc., aboutissent à une banalisation de la génialité. Donc, c'est comme si, comme d'autres choses, effectivement, il y a de moins en moins d'êtres remarquables, mais que ces êtres remarquables se fondent, ou sont supposés se fonder, dans un plus grand nombre.
Alors, si vous voulez bien, Jacques-Antoine Maravich, on va parler maintenant d'un chapitre qui est très important dans votre ouvrage, qui concerne la bisexualité.
Oui.
Alors, quelle est la théorie de Wanninger? Cette idée qu'il y a du masculin dans le féminin, dans la femme, de la féminité dans l'homme, ça paraît un peu bizarre, parce que ça suppose qu'on pourrait savoir ce qu'est la masculinité en propre et la féminité en propre. Or, elles sont toujours mélangées, donc on ne peut plus jamais faire la part des choses.
C'est difficile de dire en une seule phrase ce qu'est la bisexualité pour Wanninger, parce que
vous avez le droit à plusieurs.
Oui, voilà, exactement. Et puis c'est complètement changeant. Et puis surtout, il a plusieurs approches de ce qu'est un homme et une femme, y compris une approche d'ailleurs qui est très proche de ce qu'on appelle maintenant les théories du genre. Alors pour Wanninger, il part d'une espèce de monisme, c'est-à-dire de l'unité du vivant, mais il aboutit, et c'est en cela qu'on lui a fait un certain moment des reproches, il aboutit en fait à une hiérarchie. Les hommes, pour le dire simplement, sont bien mieux que les femmes. Les hommes sont bien plus créatifs et donc plus accessibles au génie que les femmes. Et la femme, en fait, est soumise à l'homme. Alors, il y a plusieurs lectures de cette affirmation. Soit il en fait le constat, auquel cas on peut lui faire un reproche. Soit il le dénonce, auquel cas on peut le voir également comme un féministe accompli, voire un féministe avant l'heure. Donc, son monisme aboutit à un dualisme. Exactement d'ailleurs comme pour Freud.
Donc il est tourmenté par la question du double.
Oui, ah oui, ça c'est une chose très importante. Là aussi on est dans le romantisme, c'est le doppelganger du monde germanique, un terme qui est né à la fin du XVIIIe. Le thème du double est extraordinairement important dans la littérature au XIXe siècle. C'est Maupassant, Dostoïevski, Jules Verne, Georges Sand, etc., etc. On écrit beaucoup de choses sur le double, et le double pose la question de l'identité. Et en même temps que le 19e siècle et surtout la seconde partie est une époque de progrès, on s'intéresse de plus en plus au monde des morts, c'est-à-dire à l'irrationnel. Donc il y a aussi une duplication entre le vivant et le mort, ce dont témoigne sa mort précisément, ou en tout cas une espèce de fascination pour la mort et pour le crime. Et donc le thème du double a rendu Wanninger également dans la bisexualité, bien sûr, également dans le fait d'être un juif antisémite, est aussi quelque chose qui a nourri cette vision romantique de Wanninger, qui correspondait à cette époque à une des approches possibles de la génialité.
Jacques-Antoine Malarevitch, c'est le moment de notre seconde pause musicale. Vous avez choisi une danse espagnole, numéro 5, comme un parfum. Nous allons l'écouter.
Thank you.
Jacques-Antoine Malarévitch, de qui est cette danse espagnole numéro 5 ?
Granados.
Qui est ?
Un compositeur espagnol, et ça c'est en référence à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Weininger est mort dans la rue des Espagnols noirs.
Bien joué. Alors, on est en train de parler de la dualité masculin-féminin que Weininger reconnaît en chaque individu, mais il recycle un petit peu Kant en associant à cela un impératif catégorique, qui est que chaque individu a le devoir de parvenir à un dépassement de sa composante féminine ou charnelle au profit de sa composante masculine ou spirituelle. Ce qui résonne comme un écho à l'impératif catégorique kantien.
Exactement, c'est ce que met en place Weininger, en tout cas dans sa pensée, dans le déroulement de sa pensée, c'est-à-dire l'impératif de génialité, dont il dit par ailleurs qu'il est beaucoup plus facile à remplir pour les hommes que pour les femmes.
Au motif qu'elles
sont incapables d'y parvenir, elles n'ont pas la mémoire, elles sont trop dans leur sexualité, dans leur sein. Dans leur sensibilité. Alors que l'homme peut penser autre chose au niveau de la culture, de la civilisation, il peut élaborer ce que la femme ne peut pas faire. Autrement dit, ce que dit Weininger aussi, c'est que le meilleur ennemi de la femme, c'est la femme.
Et il dit aussi que le meilleur ennemi de la femme, c'est la femme. Il dit aussi que la haine contre la femme reste une haine non surmontée contre sa propre sexualité.
Pour l'homme. Absolument, oui.
Et comment est-ce que cette idée est reçue? Est-ce qu'elle choque ou est-ce qu'au contraire, on y voit une sorte de révélation qui explique les choses comme elles sont?
On y voit plutôt une révélation. Ou en tout cas, beaucoup, y compris ce que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire qui ont admiré Weininger, y ont vu la manifestation de ce qu'ils pouvaient penser, par ailleurs. Mais encore une fois, dans la complexité. Par exemple, Strindberg, qui était très connu pour sa misogynie, disait tout autant, je peux pas me passer d'une femme. Donc, en fait, on a rendu hommage, en tout cas certains ont rendu hommage à Weininger, en reconnaissant qu'il pouvait dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Encore une fois, on est au début du 20e siècle. Ce sont évidemment des paroles qui sont inaudible maintenant, mais à l'époque c'était quelque chose qui était remarquable et remarqué.
Mais est-ce que c'est un livre Sexe et caractère qui est facile à lire? J'ai l'impression qu'il y a plein de phrases contradictoires. Par exemple, vous dites, il écrit quelque part, l'homme et la femme ont les mêmes droits, cela n'implique pas que les femmes doivent avoir part aux affaires politiques.
Oui.
Donc c'est une contradiction, on est d'accord.
Absolument, on est bien d'accord.
Et donc est-ce qu'on arrive à en extraire un message cohérent?
C'est un livre très difficile à lire, plein de contradictions, plein de paradoxes, qui est constitué de deux parties. Une première partie qui est très physiologique et très biologique, et une seconde partie qui est philosophique. D'accord? Donc effectivement, qui tire vers Kant. Pour lui, c'est un retour à la philosophie et à Kant. Donc c'est un livre, d'une certaine façon, fait de briques et de brocs, qui a, c'est ce qui a été dit, tout autant effrayé que fasciné, par exemple, ses professeurs à l'université. Quand même déjà la marque d'une ambiguïté absolue.
Comment s'est passée sa soutenance de thèse?
Ah ça, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'il y a un professeur...
Qui était gêné de voir son nom associé à ce travail.
Absolument, qui après sa mort a fait paraître un article dans un journal viennois pour dire, oh là là...
C'est mon étudiant, mais c'est pas moi.
Oui, voilà, exactement. Donc, qui était assez gêné aux entournures. Mais en même temps, tous les auteurs qui ont aimé Weininger sont eux-mêmes des auteurs complexes. Kafka...
Mais qui étaient tous un peu misogynes, non?
Voilà.
Est-ce qu'il faut être misogyne pour apprécier Weininger? Ça doit aider quand même.
Est-ce que vous posez la question à moi ou...
Oui, non, c'est-à-dire, on peut y voir, vous l'avez dit vous-même, les prémices de la théorie du genre, donc un discours assez moderne, et en même temps, quand on lit Weininger aujourd'hui, on a l'impression que ses thèses sont provocatrices, fausses, ridicules.
Oui.
Comment faire la part des choses? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on éprouverait aujourd'hui à recommander à la lumière de nos systèmes de valeurs actuels l'œuvre de Weininger? Est-ce qu'elle a été une étape importante mais dépassée ou est-ce qu'elle continue à nous parler directement?
Je pense qu'elle a été une étape importante, 36 rééditions effectivement jusqu'en 1925, donc un succès considérable en librairie.
À la même époque où Schopenhauer est élu par beaucoup de gens, notamment par les scientifiques.
Oui.
Est-ce que ça se fait écho? Est-ce que ça se comprend?
Non, je ne crois pas. Je pense qu'il était surtout lu et apprécié par des écrivains ou des philosophes comme Wittgenstein par exemple. Mais je pense il faut bien séparer le bon grain de l'ivraie, et c'est très difficile dans le livre de Weininger. Pour nous, maintenant, c'est pas un livre intéressant, j'ai envie de dire. C'est un livre qui a une forte connotation historique et qui est fortement connoté par la mentalité de son époque. Encore une fois, une époque de chaos, d'ambiguïté, où c'est un monde qui se cherche. Et Weininger prétend donner des points de repère à ses contemporains. Il le fait de façon très brouillonne, qu'il veut exhaustive sans que ce soit vraiment le cas, puisque nous, effectivement, on a toute la connaissance qui nous est venue après.
Mais vous, qui êtes psychiatre, quand est-ce que vous l'avez rencontré et comment? C'est au cours de vos études ou c'est un hasard?
Ou c'est le hasard, c'est plutôt
le hasard. Qu'est-ce qui vous a passionné au point d'écrire un livre?
Encore une fois, la passion est historique. C'est encore une fois le fait que Freud est considéré comme un génie. Freud était quand même assez avare
de compliments.
Il y est revenu de plusieurs façons. Et également, ce qui est fascinant, c'est à l'évidence la connivence entre la folie et la génialité, qui est un problème absolument insoluble.
Et est-ce qu'il y a un rapport évident entre cette génialité dont vous parlez, dont Freud a parlé, et oui, son suicide? Est-ce que l'un a entraîné l'autre ou d'abord, est-ce qu'on comprend pourquoi il s'est suicidé? Est-ce qu'il a laissé une lettre? Est-ce qu'il s'est expliqué?
Non, il n'a pas laissé de lettre, sauf un de ses ennemis les plus acharnés a prétendu qu'il a laissé une lettre pour demander pardon à tous ceux qui l'avaient gêné. Donc, c'est très suspect.
Gêné par son génie.
Voilà, exactement. Donc, non, je pense pas qu'il ait laissé de lettres. Il a voulu disparaître parce que je pense qu'il s'est mis lui-même dans un cul-de-sac. Et encore une fois, dans cette vision romantique et sacrificielle du héros romantique, il n'avait pas d'autre solution que le suicide. Je n'ai pas une lecture psychiatrique de son suicide, ce qui me paraîtrait très réducteur.
Mais est-ce que on en parlerait aujourd'hui s'il n'y avait pas ce suicide?
Non. Probablement pas. Probablement.
Donc, qu'est-ce que le suicide vient ajouter à la compréhension et au rayonnement, entre guillemets, de l'œuvre?
Alors, le suicide a été l'occasion de ce rayonnement de l'œuvre et du personnage. Je crois également que s'il avait survécu, ce qui est très hypothétique, il aurait écrit d'autres choses et il serait très probablement revenu sur une bonne partie du contenu de Sexe et caractère. On a d'autres écrits de lui qui ont été édités bien plus tard où il revient et il est beaucoup plus, entre guillemets, raisonnable sur ses affirmations, les affirmations qui correspondent à sa thèse. Donc il aurait mis de l'eau dans son vin et peut-être qu'il se serait banalisé très probablement.
Est-ce qu'on comprend comment il a travaillé, comment il a pu, en si peu de temps, produire une œuvre quand même assez considérable, bourrée de références?
Oui.
Ce qui suppose qu'il ait lu beaucoup de choses.
Il a lu beaucoup de choses.
Ça prend du temps.
Oui.
Est-ce qu'on comprend sa façon d'être, de travailler, d'échanger? Il passait beaucoup de soirées à discuter avec des autres. Donc, du point de vue de l'emploi du temps, on a du mal à reconstituer le fil de l'histoire.
Il répond à une des représentations qu'on avait ou qu'on a encore quelquefois du génie, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'acharné, qui travaille beaucoup, qui passe ses nuits à travailler. Et là, on est aussi dans le dédoublement. C'est-à-dire, il y a le jour et la nuit, et il y a le mélange des deux et la différence entre les deux. Donc c'est quelqu'un qui travaillait énormément, qui lisait beaucoup, qui voyageait, encore une fois, et qui discutait beaucoup. Il a quand même fait une thèse de philosophie qui, malgré tout, malgré ses côtés un peu scandaleux, a été reçue comme telle. Il a donc eu le titre. Et ses professeurs ont été, encore une fois, partagés entre l'admiration et l'effroi. D'accord. Ce qui, je pense, j'imagine, n'était pas le seul dans ce cas-là, mais il travaillait énormément. C'était, on dirait maintenant, un hyperactif, qui évidemment n'a aucune valeur, mais je crois qu'il, c'est évident qu'il travaillait beaucoup quand on voit la somme des connaissances qu'il a rassemblées jusqu'à 21 ans, en fait, hein, puisque sa thèse, il l'a vraiment quasiment constituée à l'âge de 21 ans.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
On l'a dit tout à l'heure, Otto Weininger s'est suicidé d'une balle dans le cœur, et non pas dans la tête, comme je le disais tout à l'heure, dans un immeuble dans lequel Beethoven était mort trois quarts de siècle plus tôt. On a dit qu'il n'avait pas laissé de lettres, pas d'explication, mais là il y a quand même un message. Qu'est-ce qu'il veut dire par ce choix, et quelle est la place de la musique dans son œuvre?
Plus exactement, il a laissé deux lettres, mais pas des lettres explicatives, des lettres purement factuelles à son père et à son frère. C'est ce qui fait que son frère est venu le lendemain. Mais il n'a pas expliqué son geste. C'est pour ça qu'il est impossible de répondre à la question pourquoi il s'est suicidé. Il s'en est pas expliqué. C'est clair. Il l'a annoncé pour être sûr d'être retrouvé, a priori, dans ce lieu de location parfaitement éphémère.
Mais que représentait Beethoven pour lui?
La musique, avec Wagner, et donc exactement l'inverse de la valse. exactement la valse trop féminine pour lui, trop insupportable. Alors que Wagner, comme beaucoup de ses contemporains, c'est quelqu'un qui évidemment était admiré exactement comme Beethoven. C'était le génie pour Weininger. Manifestement, Beethoven était un génie.
Universel.
Oui, voilà.
Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, Jacques-Antoine Maravich, de la phrase de Jacques Derrida que je citais dans mon introduction ?
Le génie gêne.
Le génie gêne, à accorder la moindre légitimité au mot génie, on signerait une démission de tous les savoirs. Est-ce que ça veut dire que le génie est inexplicable par la psychiatrie, par la psychologie, par les neurosciences? Alors, est-ce que c'est une figure qu'on doit abandonner?
Je crois que c'est pas parce...
au profit du surdoué?
Oui, je crois que c'est pas parce que quelque chose n'est pas facilement explicable qu'il faut absolument le déconstruire. L'effet reste. Les faits psychologiques, sociologiques restent, ils sont toujours explicables, mais c'est souvent insatisfaisant. Donc ça fait partie effectivement quand même d'une entreprise de déconstruction de tout, y compris du génie et de la génialité. Mais je crois qu'il reste, et il restera, il y aura encore des gens qui seront des gens absolument géniaux, c'est-à-dire qui seront... dont la tête dépassera celle des autres, si je rappelle ce qui s'est passé pendant la Révolution.
Mais est-ce qu'on peut imaginer des sociétés dans lesquelles la vie des génies serait facile ? Ils pourraient s'intégrer, avoir une vie sociale harmonieuse, ou est-ce qu'il y a toujours cette figure romantique qui les poursuit, qui les abandonne à une forme de solitude, de marginalisation ?
Je suis un peu déformé par mon boulot de psychiatre, donc j'ai plutôt le sentiment qu'il faut, comment dire, que le génie déséquilibre. Que la pratique du génie, de la génialité déséquilibre, c'est-à-dire ça coupe des autres immanquablement à un moment ou à un autre. On en a beaucoup d'exemples, y compris dans la vie de certains scientifiques comme Grothendieck, comme Tesla par exemple. Donc d'une certaine façon, la solitude, la précocité du génie coupe des autres et apporte, alors là je reparle en psychiatre, deux envies, c'est d'abord celle de tout contrôler, ce qui donne en termes psychiatriques des névroses obsessionnelles, ou le sentiment d'être incompris ou d'être rejeté, ce qui donne la paranoïa, ce qui donne un délire de paranoïa, qui peuvent être le risque de dérive psychiatrique, si j'utilise des termes actuels, d'un génie qui donc peut, comment dire, devenir mégalomane ou incompris, voire les deux.
Alors, on n'a pas tranché la question de savoir si Weininger était fou, mais il semblerait qu'il était quand même mégalomane.
Oui, bien sûr, mais comme beaucoup, comme Freud, comme Fliss, dont je parlais tout à l'heure. Je veux dire, en cette époque de progrès, cette efflorescence de progrès rendait de fait mégalomane. C'est-à-dire, tout était possible à cette époque-là. Y compris, par exemple, le dialogue avec les morts. Ce qui relève d'une autre mégalomanie. Donc oui, je pense, enfin, mégalomane, pas au sens psychiatrique du terme, mais je veux dire, de prendre, disons, ses désirs pour la réalité.
Est-ce que vous voyez un parallèle entre cette époque, donc il y a à peu près un siècle, et aujourd'hui, on a l'impression que le progrès a perdu ses lettres de noblesse, il devient menaçant. Par ailleurs, on réactive le mythe de la post-humanité.
Oui.
Donc l'idée qu'on va accéder à une nouvelle forme d'humanité qui n'a rien à voir avec la nôtre, qui est fatiguée, qui est décadente, qui est lasse d'être elle-même. Est-ce que c'est la même chose qui se produisait à l'époque ?
Je crois, je reviens surtout sur la question de l'identité. Ce qui m'a intéressé à un certain moment, c'est toute la remise en question de l'identité à des époques de grands tumultes au niveau culturel, économique, etc. Notamment au moment de la Renaissance, où on assiste aux possessions diaboliques. Donc c'est une autre forme de dualité. Au XIXe siècle, qui est un autre moment de mondialisation, avec la différence entre le conscient et l'inconscient. Donc là aussi, on devient double. Et maintenant, notre époque actuelle, on se pose ce problème de l'identité, et notamment ce qui était le cas il y a quelques années aux États-Unis avec la vogue des personnalités multiples. C'est-à-dire la personnalité ou l'identité ou le moi est une entité qui est toujours en risque de se diviser ou de perdre en unicité et donc dans quelque chose qui nous paraît rassurant. Et c'est vraiment très corrélé, je pense, à des... tumulte.
Enfin, nous parlons plutôt de la question de l'identité nationale à l'occasion des élections présidentielles. Est-ce qu'il y a d'autres façons de poser la question de l'identité à titre personnel, psychique ?
Je pense que quand on est psychiatre et psychothérapeute, c'est manifestement un problème auquel on se confronte, ce qui était moins le cas il y a quelques dizaines d'années.
Vous voyez une augmentation des crises d'identité ?
Oui, absolument. Bien sûr.
Qui se traduisent par quoi ? Par quel type de symptômes ?
Alors, avant, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on différenciait les névroses et les psychoses.
Maintenant, on parle de trouble de la personnalité, ou trouble de l'identité. Donc ça veut dire que la personnalité, qui est en fait la notion pivot en psychiatrie et en psychopathologie, est en soi une notion extraordinairement fragile, puisque l'objet de très nombreux troubles. Par exemple, l'hystérie n'existe plus. On va parler de troubles hystéroïdes, par exemple. Donc, cette notion de fragilité de l'identité se retrouve dans la fragilité de la personnalité. Et on voit d'ailleurs, à côté de ça, une efflorescence des tests de personnalité. Ce qui, en soi, signifie qu'il y a beaucoup de types de personnalité. Donc ça, je pense que c'est le symptôme d'une fragilisation et d'un morcellement de la personnalité.
Et qu'est-ce qui crée cette évolution? C'est une menace extérieure? C'est la mondialisation? C'est les changements dans la vie au travail? C'est le trouble ou l'ambiguïté des relations hommes-femmes?
C'est le fait de se heurter toujours à des déterminismes qui nous paraissent difficiles à surmonter, c'est-à-dire effectivement celle du genre, celle de la culture. C'est le déterminisme social également, et le déterminisme par rapport au temps. C'est-à-dire, on voudrait être éternel, on ne l'est pas. On veut éventuellement changer de sexe, c'est pas toujours évident. On voudrait changer de classe sociale, c'est pas facile non plus. Enfin, même les inégalités augmentent. Et tout cela provoque des déséquilibres. C'est-à-dire, on est devenu beaucoup plus exigeant en termes de consommation d'identité. On veut être plusieurs. On veut avoir plusieurs vies.
Au nom de son, ou en vertu de son identité telle qu'on l'aperçoit, en tout cas, on voudrait être autre.
Voilà, exactement. Bien sûr.
On a le sentiment que notre identité est bafouée par l'environnement, par l'évolution du monde, par la société.
On n'aime pas être enfermé dans une histoire. Donc on attend des histoires différentes et on fait en sorte d'avoir plusieurs histoires.
Donc c'est les multipersonnalités dont vous parlez.
Exactement.
Jacques-Antoine Malarevitch, c'est le moment presque de conclure. Vous parliez tout à l'heure de la Révolution française, du Panthéon, du cimetière, du Père Lachaise. J'ai pas bien compris votre message.
Alors, le message était comment faire entre l'émergence de gens remarquables, de personnalités remarquables, et le principe d'égalité. Donc, première porte de sortie, on va en faire des pédagogues. D'où le Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. D'où le Père Lachaise, qui est un peu plus tardif. Et aussi, il y a une seconde réponse qui correspond également au progrès, c'est que, tout comme certains savants pendant la Révolution, qui étaient également des hommes politiques d'ailleurs, par exemple Condorcet, Bailly, etc., étaient à la fois des savants et des hommes, Lagrange, etc., et on commence à mesurer, ou à penser pouvoir mesurer la génialité, ou en tout cas le fait d'être remarquable. Et ça donne l'avatar, c'est-à-dire la physiognomonie. L'avatar est fasciné par les crânes. Il invente un appareil pour mesurer notamment l'angle d'inclinaison du front, un frontomètre. Et ça donne également Gall, c'est-à-dire la phrénologie, c'est-à-dire le fait d'identifier sur le crâne, sur la surface osseuse, ce qu'il en serait de déformation du cerveau, qui permettent de mettre en évidence des qualités.
L'idée que le génie est lié à une forme du cerveau.
Absolument.
L'idée qui va conduire le médecin qui a...
En 1955,
à prélever le cerveau d'Einstein après sa mort et à le découper en lamelles pour essayer d'analyser les lieux où le génie pouvait s'inscrire.
Donc ça veut dire que l'idée d'expliquer scientifiquement le génie à la peau dure.
Et n'a pas disparu. En tout cas, merci Jacques-Antoine Malarevitch d'être venu nous parler d'un génie méconnu en France, Otto Wanninger. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Jean-Richard Dufour et à la réalisation François Connac. Thank you. tout de suite vous retrouver Antoine Guillot pour Plan Large, le rendez-vous cinéma de France Culture.